Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Madame, Messieurs, Patience Ngalou Lambombo vous apporte les nouvelles de 15h sur Radio Kapi. Au sommaire, tenue de la première réunion de la Task Force sécuritaire hier vendredi, présidée par le chef de l'État lui-même, cette structure a pour objectif d'évaluer la menace et identifier les acteurs principaux ainsi que les facteurs qui alimentent l'insécurité à l'est du pays. 6 morts, des maisons incendiées et des déplacements massifs de la population à Lodio et Beba dans les territoires de Djougou. Bilan des affrontements entre les groupes armés Codeco et Zahir, dont les combats se sont poursuivis jusque ce vendredi dans cette partie de l'Ituri. Docteur Christian Rwankouba est notre invité. Il est responsable des activités médicales de MSF à Bounia. Il parle des patients victimes des atrocités des groupes armés en Ituri et qui bénéficient depuis 2023 des soins chirurgicaux gratuits fournis par Médecins Sans Frontières à Bounia, chef-lieu de la province. Bonjour à toutes et à tous. Le chef de l'État a présidé hier vendredi à Kinshasa la première réunion de la Task Force du Haut Commandement Militaire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Cette rencontre intervient après celle du Conseil supérieur de la défense élargie du samedi dernier. Il en ressort quelques directives ordonnées par le chef de l'État. Les détails avec vous, Alain Hirung.
Évaluer la menace, identifier les acteurs principaux ainsi que les facteurs qui alimentent l'insécurité. C'est l'objectif principal de cette task force sécuritaire. Ainsi, au cours de la première réunion de ce vendredi 5 juillet, le haut commandement militaire a présenté au commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise le rapport des évaluations tactiques faites sur le terrain. Et le président de la République, à l'occasion, a donné l'ordre au haut commandement militaire de lancer des actions idoines pour sauvegarder l'intégrité territoriale du pays, a écrit la présidence dans un communiqué à la presse. Notons que cette task force sécuritaire est placée sous l'autorité directe du chef de l'État et se réunira à fréquence hebdomadaire. Toutefois, précise Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, elle ne se substituera pas au Conseil supérieur de la défense.
Merci Alain. Honor Kivu, premier jour, ce samedi de la trêve humanitaire, observée sur la ligne des fronts FRDC M23 autour de Kanyabayonga, au niveau de Goma et dans le sud de Lubero. L'appel du gouvernement américain annonçant cette trêve de 14 jours est diversement apprécié. Certains acteurs de la société civile, pour la plupart, encouragent l'initiative, alors que d'autres estiment que cela ne pourrait avoir aucun impact à la fin. Leurs propos sont recueillis ici par Bernard Denyangui.
Est-ce que vraiment trêve humanitaire et après les 14 jours là, ils vont créer encore d'autres catastrophes humanitaires quand ils vont reprendre les combats? Donc c'est comme si on était en train de distraire les gens. Au lieu de trouver la solution à la crise, les instigateurs sont punis. Au lieu de travailler avec eux pour leur demander de retirer tous leurs militaires sur le sol congolais, on dit trêve.
Nous sommes en train d'observer, voir ce qui va se tenir. Ici où nous sommes, il n'y a pas mouvement humanitaire puisqu'ils ont peur d'office de cette situation qui est en train de se passer dans cette zone, hein, que les humanitaires sont beaucoup plus chassés par les civils. Mais je pense que ça va pouvoir aller puisque nous sommes en train de sensibiliser les gens. Puisque c'est dans notre mission de soutenir les initiatives du gouvernement, si et seulement si nous trouvons que ça importe, hein, pour la vie de la communauté que nous sommes en train de gérer.
C'est un peu calme, comme si on observait en fait la trêve où le cessez-le-feu est mis par les États-Unis. Vraiment, en fait, on n'en a pas confiance. Ça se fait même des fois qu'il y a cessez-le-feu, mais c'est par contre, dira simplement que l'ennemi progresse et qu'il conquiert des villages ou des territoires. C'est pourquoi rester très vigilant partout où il y a nos forces défensives.
Observé dès la nuit de vendredi à ce samedi à minuit, cette trêve, selon l'esprit du communiqué de la Maison Blanche en date du 4 juillet dernier, devrait être observée jusqu'au 19 juillet courant. Elle a pour objectif de permettre les retours volontaires des personnes déplacées et de fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave, notamment dans la zone autour de Kanyabayonga. Et puis, les chefs religieux de Boutembo appellent la population à rechercher tout ce qui peut contribuer à la paix et l'édification mutuelle et non la vengeance. Appel lancé ce vendredi à Boutembo, au moment où les rebelles du M23 occupent plusieurs entités de la partie Grand Nord Kivu. Guylaine Kassassia a parcouru ces documents. Voici son condensé.
Dans ce message de deux pages, les hommes de Dieu s'inquiètent de la dégradation de la situation sécuritaire dans les sud de Lubero depuis la chute de la commune rurale de Kanyabayonga. Une situation qui est à la base de la colère de la population, mais aussi donne lieu à des actes de vengeance et de justice populaire. Les chefs religieux disent constater avec amertume que des jeunes s'investissent dans une mission autodestructrice et contre-productive qui, en somme, ne fait qu'aggraver le calvaire et la souffrance de la population. Dans ces mêmes documents, les chefs des confessions religieuses déplorent le silence des élus de la région en ce moment où ils devraient éclairer la conscience de leurs électeurs. Face à ces situations, ils invitent la population à ne pas s'attaquer aux personnes et à leurs biens en évitant toute forme de violence. En cas de soupçons, d'infiltration ou de complicité, ils invitent la population à s'en remettre aux services de sécurité. Enfin, les chefs des confessions religieuses invitent les jeunes à éviter d'agir sur base des rumeurs, d'intox, des manipulations politiciennes ou des règlements des comptes. Ne faisons pas les jeux de l'ennemi, restons sereins, conclut le message des chefs religieux de Boutembo. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
En Ituri, les affrontements se sont poursuivis vendredi entre Kodeko et Zaïre à Lodjo et Beba dans le territoire de Djougou. 6 personnes sont mortes et presque toutes les maisons incendiées dans les villages de Beba, déclarent des sources locales. Une situation qui a occasionné les déplacements massifs de la population dans cette région et la conséquence humanitaire est préoccupante, alerte les notables. Isaac Remoyope.
Un groupe de miliciens Zaïre a attaqué vendredi matin une position des assaillants de la Kodeko à Lodjo, à une centaine de kilomètres au nord de Bunia. Ces derniers ont repoussé l'ennemi jusqu'au village de Beba, en passant par Doubele, où il y a une position des FARDC qui n'ont pas répliqué. Des sources locales signalent le meurtre de 6 civils à Beba, dont 4 femmes. Toutes les victimes sont des personnes de troisième âge qui n'ont pas réussi à se sauver pendant la progression des belligérants. D'autres habitants avaient déjà quitté la zone, ajoutent les mêmes sources. Des notables déplorent aussi l'incendie de toutes les maisons par Kodeko. Ces combats ont entraîné un déplacement massif de la population dans plusieurs localités, Lodjo, Pilipili, Beba et Plito, qui a trouvé refuge à Mungwalu. D'autres personnes qui redoutent l'intensification des violences dans toutes les entités minières ont pris la direction de Bunia. Ces déplacés se sont installés dans les bâtiments qui abritent les écoles et les églises. Ils sont dépourvus de tout. Les leaders communautaires et autorités locales plaident pour une aide d'urgence à ces personnes en détresse. Ils demandent surtout au gouvernement de poursuivre les opérations militaires en vue de démanteler les groupes armés Zaïre et Kodeko qui contrôlent plusieurs villages. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Sans plus tarder, rendons-nous à présent dans la province de la Tchopo, où 3 villages se sont vidés de leur population depuis mercredi dernier. Il s'agit des Balobé, Angamapasa et Tchopo, dans les secteurs de Bakumundangumu. En cause, les affrontements entre 2 leaders Maïmaï, surnommés Chokoro et Maradona, 2 alliés du feu colonel rebelle Luc Yabili, ancien homme fort du secteur Bakumundangumu. Pour mettre fin à ces incidents récurrents, l'administrateur du territoire de Bafoua CND demande au gouvernement congolais de relever l'équipe actuelle des FRDC qui, selon lui, s'est déjà familiarisée avec les Maïmaï de cette entité. Willy Simbié a été joint au téléphone par Jacques Mkonkole.
Il y a toujours les 2 équipes de Maradona et Chokoro qui met la population dans une psychose grave. Ils se sont échangés. Maintenant, il y a Maradona qui se trouverait maintenant à 8 km d'Opieng. Et il y a des villages déjà vidés. Il y a afflux de déplacés au niveau d'Opieng. Chokoro, en tout cas sa localisation, nous n'avons pas de précision. La FRDC qui est là sur place s'est déjà familiarisée avec les inciviques. Ils ont déjà passé là-bas 18 ans. Ils sont devenus des coutumiers. Ils jouent aux dames ensemble, et ils font les échanges commerciaux ensemble, et tout ça. En tout cas, il est question, ce que nous sollicitons aux autorités, c'est d'échanger cette équipe et envoyer une nouvelle.
Par ailleurs, près de deux semaines après l'assassinat du Mwami Simbi au Mari du groupement Babungwe Nord de la communauté des Babembe dans les territoires des Fizi, dans la province du Sud Kivu, les auteurs de ces crimes ne sont toujours pas connus. Le président de cette communauté dans l'espace Grand Katanga demande au gouvernement congolais de diligenter les enquêtes afin que cette affaire soit tirée au clair, afin que les auteurs répondent de leurs actes. Simba Doudou l'a fait savoir le mercredi dernier lors de la cérémonie de l'évée du deuil organisé en mémoire de l'illustre disparu. On écoute Jules Machumbe Saidi, assistant du président de la communauté Babembe dans les Grands Katanga, au micro de Jean Gandou.
Ce n'est pas le premier chef coutumier qui est assassiné dans notre pays. Nous avions vécu la même situation dans le même territoire de Fizi. Un chef coutumier de Balala Sud avait également été assassiné. Mais les coupables jusqu'à aujourd'hui sont introuvables. Et cette situation vient encore de se répéter aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous nous sentons motivés de demander à l'État congolais de mener des enquêtes judiciaires par rapport à ces crimes qui viennent de se commettre. Le jour qu'on a assassiné Mwami Simbi, il y avait aussi le commandant de la FARDC qui avait été assassiné, le chef de la DGM qui a été assassiné, et deux militaires. Il n'y a rien qui se fait. L'État reste indifférent vis-à-vis de cette situation. Pourquoi le ministère public n'agit pas? Si les coupables sont dénichés ou les commanditaires et qu'ils soient punis par la loi, je pense que ce genre de situations ne vont pas se répéter. Si les mêmes situations d'insécurité, de tuerie, des massacres, des vols, des viols récidivent dans notre pays, c'est tout simplement parce que dans notre pays règne l'impunité. Les coupables doivent être dénichés, cette famille doit être indemnisée et que ce genre de situation ne se répète pas.
Au Congo central, le député provincial Juif Manyanga Masisa Gabriel a introduit hier jeudi 4 juillet à l'Assemblée provinciale une question orale au gouverneur des provinces Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. À travers cette démarche, cet élu de Matadi dénonce la non-conformité des nominations à la Direction générale des recettes du Congo central DGRKC, du directeur général et ses deux adjoints intervenus tard dans la soirée du mercredi 3 juillet. Selon lui, ces nominations n'ont pas suivi les procédures légales, d'autant plus que le gouvernement provincial n'a pas encore été publié, moins encore investi par les députés provinciaux. Juif Gabriel Manyanga s'interroge de quel droit le gouverneur des provinces Grace Nkwanga Bilolo a signé l'arrêté portant nomination des animateurs au sein de cette régie financière. Il est au micro de Nana Plurich Mambou.
Le courrier, c'est une question écrite, notamment sur notre devoir, bien que nous sommes en vacances parlementaires. Conformément au règlement d'ordre intérieur, durant les vacances parlementaires, un honorable député peut initier une question orale au gouvernement, notamment au gouvernement provincial, au mandataire. Et nous avons remarqué, je crois que tout le monde a suivi hier dans les ondes ou dans les réseaux sociaux, les nominations notamment des directeurs généraux ainsi que des deux directeurs généraux adjoints de notre régie financière déjà cassée. Parce que jusque-là, nous les députés ou l'Assemblée provinciale n'avons pas encore investi le gouvernement. Sous quelle qualité le gouverneur puisse nommer un directeur? Est-ce qu'avons-nous vu un conseil des ministres, même avec des ministres sortants? Non plus, parce que notamment les régies financières n'est pas une agence du gouvernement, mais plutôt un régie qui travaille sous tutelle du ministère des Finances. C'est pourquoi je ne veux pas que les gens puissent désencadrer notre gouverneur. Je ne veux pas que les insatisfaits puissent se manifester. On doit orienter, encadrer notre nouveau gouverneur qui ne tombe pas dans les pièges des insatisfaits.
Dans la province du Maniema, cette station d'alévinage bénéficie de semences de poissons du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR. Ces semences sont des clarias et tilapia distribuées avec les fonds du Fonds international de développement agricole FIDA. Parmi les stations, il y en a cinq dans la ville de Kindu et ses environs, une à Nyoka et une autre à Salokwango. Lors de la mission de supervision conjointe, gouvernement FIDA, les bénéficiaires saluent l'appui du PADRIR et demandent encore plus d'accompagnement pour la réussite de ces projets. Florence Kizalunga, reportage.
À l'organisation paysanne Mukulumania, par exemple, qui a 30 membres, dont 12 femmes, avec ses 6 étangs piscicoles, plus un bac de quarantaine pour la multiplication dans les vins, les bénéficiaires ont reçu les semences des clarias et tilapia qui évoluent normalement. Cependant, il y a certaines difficultés et les membres formulent ces recommandations. Mbukani Mulotwa Jean, le président.
Bon, les grandes difficultés d'abord, c'est les problèmes de l'assainissement, problèmes d'outils aratoires. Il y a aussi le problème de gardiennage, vous voyez, ça coûte cher. Entre autres, il faut avoir aussi une machine qui peut nous aider à la longue pour la fabrication des recettes locales. Parce qu'un bon jour, le padri peut partir, mais on va pérenniser l'activité. Concernant aussi la formation, nous voulons avoir la formation dans tous les domaines. Être informé, parce que c'est la formation qui est à la base de l'homme. C'est un projet de 100 ans renouvelable. La formation.
Selon le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR, l'objectif est d'avoir 12 stations d'alevinage au maniement et de procéder à la multiplication des alevins pour faciliter les ménages piscicoles, l'accès aux alevins de race améliorée. Des retours de Pangui, Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
L'Égypte organise ce samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet une conférence sur le Soudan. La majorité des forces politiques soudanaises a salué cette initiative et a envoyé leur délégation au Caire. Cette conférence fait suite à un appel du ministère égyptien des Affaires étrangères. Selon un communiqué du ministère, la conférence vise à convenir d'un accord qui aboutirait à un dialogue national et à un nouveau gouvernement pour réaliser une paix globale et pérenne au Soudan, tandis que la situation militaire et humanitaire sur les terrains se complique et que militaires et paramilitaires continuent à refuser de s'asseoir autour d'une même table, pointe Aouda Ibrahim de la rédaction Afrique.
L'invité.
1000 patients victimes des atrocités des groupes armés en Ituri ont déjà bénéficié depuis 2023 des soins chirurgicaux gratuits fournis par l'ONG Médecins Sans Frontières à Bounia, chef-lieu de la province. Ces patients sont également soumis à la kinésithérapie ainsi que des traitements psychologiques. La plupart des malades sont venus des Banyalikilo et autour des régions minières où les groupes armés sont actifs. Comment s'effectue la prise en charge des malades victimes des atrocités de la guerre? Les responsables des activités médicales du Médecins Sans Frontières à Bounia, Dr Christian Rwankouba, répond aux questions d'Ezekiel Mousalia.
Dr Christian Rwankouba, bonjour.
Bonjour.
Parlez-nous un tout petit peu de la prise en charge des patients à l'hôpital Salama. Comment les malades sont-ils catégorisés ici?
On a une convention avec la clinique Salama. Dans nos critères, on prend en charge des patients avec blessures aux accidents de la route, soit qui viennent de Bounia ou de toutes les zones de santé ici en Ituri. On prend aussi en charge des patients dus à la violence. Ça peut être par arme blanche ou par arme à feu. Bon, pour le moment, d'abord, ça varie journalièrement. On a une capacité de 45 lits. Et la capacité de 45 lits, on nage souvent entre 90 et 80-90% des taux d'occupation des lits.
À ce jour, vous avez combien de malades et d'où viennent-ils? Vous les recevez dans quel état?
Pour le moment, on a déjà reçu et à prendre en charge plus de 1000 patients, environ 1900 interventions en bloc opératoire. Tu vois, c'est un peu très élevé. Et pour aujourd'hui, on continue à prendre en charge des patients d'une manière continuelle, mais les activités vraiment, depuis qu'on a commencé, nous avons remarqué les activités évolue à la hausse depuis les débuts, parce qu'au début on pensait avoir 50 patients mensuellement, mais depuis les débuts du projet, le mois de juin de l'année passée, on n'est jamais arrivé à 50, toujours on a plus de 100 patients qui arrivent dans toutes les zones de santé, ils viennent ici en état stable, et ici c'est juste une décision chirurgicale, comme on a des chirurgiens, on a des patients. Soit il faut mettre un métal au niveau du membre inférieur, qu'on appelle un fixateur externe, qui ne peut pas se faire dans la périphérie. Journalièrement ou hebdomadairement, d'abord, on reçoit environ 30 patients. Aussi mensuellement, c'est entre 100 et 150 patients mensuellement.
C'est depuis maintenant un an que vous exécutez ce projet de chirurgie ici à l'hôpital Salama. Quel en est l'objectif, en fait?
L'objectif final du projet, c'est faciliter la prise en charge chirurgicale des gens qui en manquent. Parce que si vous remarquez très bien, si vous allez en dehors des Bounia, vous allez voir des gens qui ont besoin d'une prise en charge chirurgicale, mais qui en manquent et qui n'ont pas de moyens de se prendre en charge. Et c'est dans ce sens-là que MSF est ici et qui prend en charge tout gratuitement, et toutes les références jusqu'à la guérison.
Venons-en maintenant aux différents défis. Compte tenu de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri, quels sont les différents défis auxquels vous faites face dans le cadre de la prise en charge des malades à l'hôpital Salama?
Bon, les défis que nous avons pour le moment, ce sont les défis des références. Nous recevons souvent des patients en retard. Ça peut être en retard dû à la route, ça peut être en retard dû à une organisation des références. Parce que la route, peut-être le patient doit donner son consentement pour qu'il soit référé ici à Bounia. Et ça prend un peu de temps et quand il arrive en retard, ça nous pose aussi problème dans le cadre de sa prise en charge. Et la décision et la prise en charge revient en retard.
Est-ce qu'à part la chirurgie, il y a d'autres services que vous organisez ici et quels sont les résultats?
Les services que nous faisons ici, on a quand même un triage. Le patient arrive, on les trie, on analyse s'il est dans nos critères. S'il est dans nos critères, il y a une équipe médicale qui reçoit des patients et ils amènent le patient aux urgences. Si c'est un patient grave, il part aux urgences, il est stabilisé là-bas. On fait des gestes de secours au niveau des urgences. Et la décision d'aller au bloc opératoire se prend aux urgences avec l'équipe toujours sous les leads des chirurgiens et l'équipe du bloc opératoire. Après cela, on amène le patient au bloc opératoire. Il est opéré. Après l'opération, il doit être dans une salle de réveil. Il doit être surveillé pendant un moment jusqu'à ce qu'il va se réveiller et il devient conscient.
Docteur Christian Rwankuba, je vous dis merci.
Merci.
Et c'est la fin de cette session d'information sur Radio Capi. Merci à Alain Ngoy qui a assuré sa mise en onde, également à Alain Irung Mouchinj et Jacques-Yves Molima qui l'ont respectivement supervisé et coordonné. Patience Ngalou Lambombo, c'est moi à la présentation. Merci à vous tous de votre attention.